parasha matinale, c'est la parasha de l'heure finale, qui se trouve à la page 112 de ce livre-là, au chapitre 25 de Vaïkra. Je commence d'abord par pour la semaine dernière, ce que j'avais dit la semaine dernière, j'ai pas pu arriver, je pense que vous avez été prévenu à temps. Et ce concours qui n'a pas eu lieu depuis très longtemps, je me souviens bien. Alors je vais reprendre ce cours de la paracha. Et il me semble qu'on n'a fait aucune des parachas depuis le début de Vaïkra. Pratiquement pas. Bon, je vais en tenir compte un peu. Alors je vous propose juste quelques heures, puisque ce soir est la Bormer. Je vous rappelle qu'il y aura une soirée de chant d'Israël qui a lieu à 8h30. Donc on va être délibéré un peu plus tôt que 8h, parce qu'il y a même des choses qu'on va faire. C'est comme tout le monde qui s'en va pour les gens.
Mais
d'accord, c'est donc, et vous savez, je crois qu'il y a une coutume en Israël surtout, où les enfants allument de grands feux de camp, histoire de la journée. Et à l'Irakie, il y a des cas. Qui pourrait nous expliquer la raison exacte? Mais en fait, c'est une très très ancienne tradition que nous trouvons dans le Midrash, mais je ne pourrais plus vous dire exactement à quelle génération, c'est la génération de la tour de Babel en tout cas, je crois. Il y a eu un projet de l'humanité de conquérir le ciel. D'ailleurs, nous sommes à une époque de l'homme avec les projets de la guerre des étoiles et tout ça. Et j'ai lu, j'ai étudié les Midrashim à ce sujet qui parlent de véritables rampes de lancement. Et en particulier, la tour de Babel aurait été une de ces rampes de lancement. Et, bon, je dis ça en passant, mais je ne dis pas ça avec la vie. Il y a pu y avoir des époques de développement de la civilisation, et c'est arrivé à un stade tel que la manière dont la Torah formule ce projet de l'humanité de conquérir le ciel au sein de la tour de Babel, n'a assez la bouche, le côté de ce verset. Et une Midrashim parle vraiment que l'humanité a déclaré la guerre aux étoiles. Vous voyez, c'est dans certaines coutumes des enfants, et en particulier ça se passait pendant la période de l'Ordre. À la Bormer, vous avez dit aussi que dans les communautés en Israël, les enfants tirent à l'arc. Vous voyez, c'est ça. Mais ça va, ça vient de là. Et par conséquent, probablement, toutes ces coutumes sont restées. En tout cas, dans les communautés de la Gola, je ne me rappelle pas de ça. C'est-à-dire renouvelé en Israël par la jeunesse israélienne au moment de la Yishu, probablement lorsque ça s'est relié à des traditions de type le folklore des Maccabées, etc. Je referme la parenthèse. Évidemment, la Bormer, ce n'est pas essentiellement ce volcan, c'est l'anniversaire de Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Je ne pense pas que ce soit nécessaire que le sujet du cours porte sur la Bormer. Je pense que vous avez vraiment de faire à ce sujet. Mais si vous voulez qu'on a peut-être en parler en fin de cours, si c'est nécessaire, je vous propose donc de lire le cours en deux. Nous avons étudié un thème de la paracha de la prochaine semaine. Et la moitié du temps qui nous restera, si vous avez des questions, peut-être que sur la Bormer vient. Bessébet. Alors, on va lire les premiers versets. Et je reprendrai une des questions classiques que le Midrash pose concernant précisément le titre de la paracha. Et c'est le problème suivant, que je vous invite tout de suite dans l'introduction. Ici, la Torah a jugé nécessaire d'utiliser un enseignement qui se relie au principe que toutes les mitzvot de la Torah ont été données au Sinaï, non seulement dans leur principe, dans la formulation générale du principe de la mitzvah, que, en fin de compte, de niveau en niveau, on récolte les ouvrages jusqu'au principe généraux des 10 commandements qui englobe l'ensemble des principes de toutes les mitzvot, pour les mêmes choses tout à l'heure, et pas seulement les 10 commandements. Or, comme ce thème, que toutes les mitzvot sont du Sinaï, est un thème qui d'autre part va de soi, la question se pose de comprendre la raison pour laquelle la Torah a tenu à indiquer cela de la manière dont elle le fait précisément dans notre paracha. Dès le premier verset, « Vaïdaber Hachem et Moshe Behar Sinaï le mort » et Dieu a parlé à Moïse sur la montagne du Sinaï, au Sinaï, pour dire « Et si un ensemble de mitzvot particulières de l'organisation de la société hébraïque selon la loi biblique, selon la loi de Moïse, et en particulier ce principe de la chimica, c'est-à-dire qu'il y a activité économique normale, disons habituelle, pendant 6 ans, et que la 7e année, il y a une année de suspension de l'activité économique. Ça commence par la première loi de Newton, dont nous allons lire le premier aspect, ce qu'on appelle en français la jachère de culture. Les champs en jachère, c'est-à-dire de ne pas cultiver les champs ou la vigne, comme ça est indiqué, et c'est appelé, cela est appelé le Shabbat de la terre. Et vous comprenez aussi qu'il y a derrière un principe de calendrier qui est repris, de la même manière qu'au niveau de la semaine, le rythme est 6 jours et le 7e, c'est le Shabbat de la semaine, c'est le repos de l'homme. De la même manière, apparaît ici, au niveau des années, puis du jubilé, cette fois cette année et la 50e année, du domaine du jubilé, un rythme analogue au niveau de la gestion de la société, et en particulier, centralement, relié au problème le plus important de la société, qui est le problème économique. Donc, je reprends un peu cette définition, de voir que la loi du Shabbat, donc, va déborder simplement ce à quoi on s'était habitué en général, le Shabbat, de la reconnaissance du principe du Créateur par l'homme sur le Shabbat de l'homme, mais cela va être institué au niveau de la vie de la société hébraïque. Et je reviens sur ce point, qui nous servira de première introduction, sur son problème central, qui est le problème économique. J'ai souvent l'habitude de rappeler la manière dont on définit un groupe humain, et j'emploie à ce sujet le vocabulaire que j'ai appris à l'université française, qui me semble plus clair que dans d'autres traditions culturelles dans d'autres pays. En particulier, sur ce problème que j'ai cité, il y a une différence de définition, des critères selon lesquels on définit un groupe humain, en vue de quoi il se constitue en groupe, c'est donc le problème de la société, et tous les problèmes de relations intersociales que le fait de société pose, et au sujet duquel la Torah va légiférer dans son projet de sainteté, que le projet de Midrash, en particulier dans le livre de Vaïkra. Et le vocabulaire de l'école française de sociologie est très précis à ce sujet, me semble-t-il, le plus précis, c'est qu'il y a deux manières de définir un groupement humain. Soit les hommes se groupent autour d'un idéal et il s'agit d'une communauté, en hébreu c'est la haïda. Soit ils se groupent autour d'un intérêt et il s'agit d'une société. Donc, le vocabulaire en français, en hébreu c'est le kahal. Alors effectivement, lorsque un groupe humain se définit comme réuni autour d'un intérêt, c'est tous les problèmes de la société qui se posent. Et je veux dire surtout que le problème central, c'est évidemment le problème économique. Et c'est la raison pour laquelle cette loi de l'introduction de la sainteté du travail au niveau des relations sociales, au niveau de l'histoire d'une société, va d'abord porter sur le problème économique. Alors, j'en dirai vraiment rapidement quelques mots avant que nous lisions le texte pour reprendre notre question d'exégèse. Pourquoi la Torah a jugé nécessaire de rappeler que toutes les mesures viennent du Sinaï, est un sujet en soi, est-ce que ça va pas de soi, hein? Mais, et d'autre part, pourquoi elle le rappelle à propos de ces micros de la Shmita, je ne sais pas si vous employez ce mot en hébreu, le fait de suspendre l'activité économique la 7e année, c'est-à-dire la loi du Shabbat au niveau de la société et plus seulement au niveau de l'individu, et la loi du Shabbat au niveau de la société concernant le problème économique puisque c'est le fait social par exemple. Je vous dis, c'est le phénomène autour duquel le fait de société se constitue et sur lequel il se fonde. Je crois que nous avons étudié ce thème, un thème en tout cas assez proche, dans un des cours de Sidrot, mais je ne vais plus vous dire si c'est cette année ou l'année d'avant, il y a fait le moment, mais je le rappelle quand même. On peut se demander pourquoi la manière d'exister de l'homme consiste à être donné aux problèmes économiques. Puisque le problème au niveau philosophique, à ma connaissance, n'a jamais reçu de réponse en philosophie à proprement parler, le problème important qui est à la source de la difficulté de la régularisation des relations intersociales, le problème de la société humaine, c'est le fait que l'homme, je vais le formuler de la manière la plus élémentaire, l'homme doit manger pour vivre. Ce que j'appellerais donc directement le problème économique. C'est-à-dire, nous sommes donnés dans notre existence de créature à résoudre un problème qui philosophiquement est un mystère. Le problème économique. Le fait qu'il faille manger pour vivre, c'est la cause de toutes les difficultés du fait social. Parce que c'est le problème économique qui fonde la difficulté du fait social. à la limite, un phénomène comme la guerre des sociétés entre elles, ou même la guerre à l'intérieur de chaque société, à quelque niveau que ce phénomène soit, sera perçu, bien de cela. Du point de vue de l'enseignement traditionnel de la Torah, il y a une des raisons qui est à la base des guerres, c'est la rivalité économique, et c'est les traditions au niveau de la langue même. Ce n'est que l'Echem est de la même racine que le Chama. Ça veut dire que tout se passe comme si une des raisons qui mène à la Milchama, à la guerre, c'est le problème de l'intérêt économique, de l'arrivée, de la rivalité économique. Les historiens qui ont étudié les causes profondes de toutes les guerres, grandes et petites, savent que quelles que soient les motivations idéales qui sont données pour une guerre au niveau du fait de communauté, il y a derrière des motivations d'intérêt au niveau du fait de société. Dans ces motivations d'intérêt, il y a bien évidemment le l'Echem comme cause de la Milchama. Il y a une étymologie plus profonde de cette relation entre les deux termes, l'Ilchama et l'Echem, qui est que le fait d'avoir, le fait d'obtenir son pain est en soi une guerre. Je veux dire, c'est un fait de l'Ilchama d'arriver à faire pousser le l'Echem, à obtenir le l'Echem. Mais quoi qu'il en soit, il y a une indication qui peut nous permettre de percevoir de façon beaucoup plus centrale en quoi le fait de société est d'abord, et toutes les difficultés que cela implique, tous les problèmes que cela implique, est d'abord relié au problème économique. Je crois que l'analyse marxiste, disons que le vocabulaire de l'analyse marxiste du problème de l'histoire humaine a touché là un point essentiel, c'est que qui a été caché un peu au niveau du développement des idées dans la société bourgeoise, c'est que le problème économique est un des leviers les plus importants de l'histoire qui se fait, de l'histoire en train de se faire. Maintenant que nous avons parlé à propos des premières lois de Poisson, et à propos de. Nous avons commencé à étudier à propos du fascisme, ce problème sur lequel je reviendrai pas dans ce cours. Donc, la question se formule ainsi, comment se fait-il, une question métaphysique, comment se fait-il que la manière d'exister de l'homme soit handicapée a priori par le fait que pour exister, il y a à résoudre ce que nous appelons le problème économique. Il est évident que s'il n'y avait pas de problème économique, le problème des relations au niveau de la société, au niveau des valeurs morales, serait amélioré de façon radicale. C'est très important de voir que dans les pré-unions mécaniques reprises dans l'enseignement du Talmud, c'est toujours lié. Le fait que c'est une ère où les valeurs morales deviennent souveraines, et c'est une ère où le problème économique n'existera plus. Vous comprenez le lien qu'il y a là. Deux séries de Midrashim qui nous décrivent l'état du monde dans l'état messianique, où il n'y a plus de problème économique, et où les hommes sont heureux parce qu'ils peuvent enfin pratiquer dans leur relation intersociale le commandement d'amour, le commandement de justice, le commandement de. Je pense que ça suffit pour comprendre un peu l'importance de ce sujet. Ça me renvoie d'autant plus à la question métaphysique que j'ai posée tout à l'heure. Et qui est pourquoi, en vue de quoi, de quelle finalité ça lui dit, en vue de quoi, l'homme est fait exister en tant que, vous employez un terme latin, homo economicus. Vous connaissez le terme de homo faber, homo sapiens, disons homo economicus. Nous sommes dans l'économie de l'étude de l'enseignement de la Bible. Ça veut dire le créateur a créé sa créature comme homo economicus. C'est une sorte de relation entre Adam et Adama, à laquelle on ne peut pas habituer sous cette forme-là, c'est que l'homme doit travailler la terre pour pouvoir vivre. Et y a-t-il une réponse à cela? Encore une fois, j'ai exploré, autant que je puis le faire, les systèmes philosophiques qui existent tous que les valeurs qui sollicitent la conscience dépendent finalement de la solution du problème économique. Un philosophe qui a faim est un philosophe qui ne pense plus, parce qu'il n'a plus rien à dépenser. Et je pense que c'est bien clair. On comprend pourquoi la philosophie ne va pas poser cette question-là, parce qu'on n'a pas de réponse philosophique. Pardon ? Oui, comme disaient les latins, primum vivere, deinde philosophare, c'est bien ça en latin. Et alors que nous voyons que la Torah ne s'occupe pratiquement que de ça. La première chose que Dieu a à dire à Adam, une fois Adam constitué en tant que homo historicus, c'est comme ça tu manges, comme ça tu manges pas.
Vous voyez que, comment ça démarre, c'est pas vrai. C'est-à-dire le fait de nourriture en lui-même est un fait important dans les catégories de la Torah, avant même d'aborder le niveau nourriture cachère ou pas nourriture cachère, mais le fait de nourriture lui-même, puisque c'est le phénomène par lequel le fait de création se continue. C'est-à-dire, nous avons été fait exister avec une nécessité de manger pour lui, et c'est le fait de manger qui fait continuer, qui continue ce fait d'avoir été fait exister. Je m'excuse du charabia, mais c'est pour être plus clair. Je pense que c'est évidemment clair. Eh bien, la réponse de la Torah est très simple. En réalité, dans ce monde-ci, nous avons été donnés au problème moral. Et le problème économique est la base existentielle du problème moral. Toutes les interpellations de la moralité, finalement, se fondent sur une situation de relation économique. C'est à propos du problème économique que le problème de la moralité va être basé. Vous comprenez pourquoi ? Si c'est précisément clair, sinon je vais arriver sur la définition. Vous comprenez pourquoi la Torah va établir un lien dans l'ordre du projet de sainteté entre les valeurs de la justice dans la société et d'autre part la manière dont l'économie sera réglée. C'est à propos du problème économique qu'elle nous formule les niveaux du projet de sainteté. Je crois que là nous avons la base de ce problème formulé finalement de la façon la plus simple, qui est que nous sommes donnés au problème économique parce que c'est en relation avec le problème économique que le problème moral se pose. Si nous n'avions pas le fait économique, le problème de la moralité n'aurait plus pris sur l'existence. Ce serait un problème de la contemplation des intentions morales et non pas un problème concret de la preuve à faire du tzadik ou du rachat. Pour cela, nous sommes encore une fois donnés à cette situation existentielle d'avoir à manger pour vivre parce que nous avons à être interpellés au niveau de la moralité. Je ne sais pas si je suis arrivé à exprimer ce que je voulais dire. Et donc, nous nous approchons déjà plus de notre problème, c'est que on comprend pourquoi la loi du Shabbat au niveau du fait social va nous être donnée à propos du problème de nourriture. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Oui. Alors, on peut donc maintenant lire mon texte, le début des versets, avec toujours en tête cette question que je vais analyser en premier lieu. Pourquoi ? C'est à propos de ces lois-là de la Shmita, concernant la régularisation du problème économique, que la Torah rappelle que toutes les lois de la Torah sont du Sinaï. Qu'est-ce que ça signifie ? Je vous signale, si vous voulez, si vous avez à reprendre cette étude par vous-même sur le texte, que ça s'étudie parallèlement avec les premiers versets de la paracha de Mishpatim, qui se trouve dans l'Exode, à partir du chapitre 21, et que la paracha qui suit immédiatement les 10 commandements. Donc c'est très parallèle. Quelques mots sur la loi de la Shmita elle-même, puisque l'objet c'est pas tellement l'exégèse de la loi de la Shmita, mais la raison pour laquelle la paracha s'appelle Be'ar Sinai. C'est qu'il y a là une vision des choses qui, à ma connaissance, n'a jamais été tentée d'être appliquée dans aucune société humaine, c'est-à-dire une vision de la théorie économique qui aurait pour objet d'empêcher l'accélération économique. C'est-à-dire le fait de briser la tendance à l'accélération de la machine économique par ce rythme du Shabbat de la 7e année, de la 50e année. Et or, c'est bien l'accélération économique, un spécialiste, je trouverai les termes beaucoup plus précis que de l'emploi, mais je crois que l'idée générale est suffisamment claire, qui mène finalement les inégalités sociales. C'est-à-dire un des effets de la relation problème économique, problème moral, vient de l'accélération qui, en fin de compte, accuse l'inégalité sociale. Et alors, il y a une sorte de moratoire de différence qui se fait de façon perpétuelle et qui régularise cette relation entre le niveau de capacité économique et le niveau de mérite moral. Pour reprendre ce même problème un peu dans un autre sens, on pourrait objecter de façon très très immédiate, est-ce qu'une société moderne, dans notre cas l'État d'Israël, peut faire fonctionner sa vie économique selon les lois de la Torah, de ce refroidissement de l'accélération de productivité à la vie. Et on pourrait formuler cette objection en disant, c'est pas possible, on ne peut pas arrêter le haut fourneau chaque semaine, on ne peut pas arrêter la production agricole chaque septième année. Et on pourrait en conclure donc de la manière dont un État moderne de selon la Torah est impossible. Vous avez deux réactions dans la population juive sur ce problème contemporain. La réaction de ceux qui disent un État moderne n'est pas avec la Torah parce que c'est pas possible. Et la réaction de ceux qui disent ah, puisque nous voulons la Torah, nous voulons pas cet État moderne parce que c'est pas possible. Vous avez compris le. Et je me souviens très bien que les documents que je vais citer là sont dans un livre qui a été rédigé par le Rav Kacher, édité par le Rav Kacher. Le Rav Kacher est l'auteur de la monumentale encyclopédie qui s'appelle Torah Shlema. Vous connaissez Torah Shlema, s'il vous plaît ? Je vais dire très brièvement, c'est un instrument de travail très important. C'est un Torah qui est édité de la manière suivante. Il y a le verset, le Targum, les trois Targumim, Rashi, et toutes les citations de la Torah Shabbaté concernant ce verset. C'est un synagogue monumental que le Rav Kacher a commencé. Il est mort il y a pas très longtemps, c'est son fils qui l'a continué. Quand ils sont au 35e volume et pas encore à la moitié de du fromage. C'est une œuvre prodigieuse. On se demande comment un seul homme a pu rassembler et systématiser toutes les sources concernant, vous avez compris avec votre statuette. Et en particulier, nous devons, au Torah Shlema Rav Kacher, donc les références des éditions à ce que nous appelons les Midrashim du Théman, les Midrashim Yéménites, qui étaient très rares et qui nous sont restituées par cette édition-là. Il n'y a pas de Midrashim dans les contenus, ils n'existent pas du tout ailleurs dans les autres traditions, avec la tradition yéménite, comment allez-y du premier temps. Et donc, je reviens au problème, pourquoi j'ai cité le Torah Shlema. Oui. Il a écrit immédiatement après la guerre des Six Jours une grosse anthologie qui s'appelle Atkoufa Gdola. Atkoufa Gdola, c'est un livre très important pour les confrontations au sujet de la nature messianique de l'évangile qui est ou pas. Et qui va dans son politique, qui est lui d'ailleurs, et il édite énormément de documents que vous plus ou moins inconnus, de toute la controverse qu'il y a eu dans le rabbinat européen, essentiellement, autour de l'apparition du mouvement sioniste. C'est important de voir qu'une des raisons qui était le plus souvent avancée par les rabbins orthodoxes pour nier l'éventualité de l'idée d'un État sioniste, c'était la nécessité de la Shmita. C'est-à-dire de dire, mais si on fait un état juif, il faudra accomplir la Shemitah, mais comme ce n'est pas possible d'accomplir la Shemitah, vous voyez, comme on renonce à l'avance, hein, donc il ne faut pas être sioniste, il ne faut pas cacher à cause de la Shemitah. Je pourrais le formuler de manière différente. Ne pas pratiquer le Shabbat, en tout cas, c'est très grave, mais risquer d'être en Eretz Israël, ne pas pratiquer le Shabbat, Dieu préserve, alors il ne faut pas le mettre. Oui, après le raisonnement. Et c'est pas parce que ce livre-là, je ne pensais pas en parler, mais nous avons des textes à travers d'être naïfs, lui de l'extérieur, mais les arguments les plus sérieusement avancés que de cet ordre. Seulement ce scrupule du problème de la Shemitah et la difficulté d'envisager, vu notre éducation culturelle contemporaine, d'envisager une telle théorie du refroidissement de l'accélération économique systématique dans un État moderne. Alors je crois que le problème doit s'inverser, c'est vraiment l'intention de la Torah, c'est-à-dire de briser intentionnellement cette accélération économique. Je crois qu'il y a un changement de mentalité radical. C'est-à-dire que l'intérêt n'est pas que le haut fourneau continue à brûler le Shabbat et donc il faut des buts pour les surveiller. L'intérêt de la Torah, c'est que vraiment on éteigne le haut fourneau le Shabbat, de telle sorte qu'il n'y ait pas cette accélération dont je vous parle. Il y a peut-être des expressions plus scientifiques pour dire les choses auxquelles je fais allusion. Et c'est intentionnel. C'est-à-dire, l'objection ne tient pas à la racine. Cette objection consisterait à dire un État moderne qui pratiquerait les lois du Shabbat, de la Shemitah, ne pourrait pas être compétitif au point de vue économique, mais c'est précisément l'intention de la Torah d'empêcher cette accélération et sophistication de la vie économique qui finalement évacue complètement le problème moral de la vie. Je pense que c'est clair. Alors, je voudrais ajouter une chose, c'est que le problème devient un problème de nouveau de picor nefesh au niveau de la société. Picor nefesh, ça veut dire ce cas de force majeure où une loi de la Torah doit être suspendue parce que l'existence de l'homme serait en question. C'est-à-dire, le problème est uniquement vis-à-vis des sociétés extérieures, étant donné que le problème économique mène une compétition entre les sociétés, et par conséquent, Israël, en tant que société vivant suivant les lois de la Shemitah, risquait d'être défavorisé dans sa compétitivité extérieure. Mais si la Torah était la constitution de la société israélienne, alors les rabbins du temps, vu ce principe que c'est la Torah qui est la constitution de la société israélienne, sauraient établir les principes existants, dans quel cas on ferait quand même laisser les hauts fourneaux brûler le Shabbat à cause de la compétitivité économique vis-à-vis des autres sociétés, suivant le principe « Atorah hasa al-mamonam » chez Israël. Il y a pas seulement le principe de Pikuach Nefesh, il y a le principe que si l'application du mitzvah mène à un effondrement économique, alors on aménage la mitzvah autrement, parce que ce principe de la santé économique est un des principes de la loi. Donc ça veut dire que dans les détails de l'application pratique, c'est une science pour elle-même, une technique pour elle-même. Comment faire fonctionner une société moderne avec les lois de la Shemitah ? Mais du point de vue principiel, du principe lui-même, est-ce que c'est vraisemblable d'arrêter l'économie dans le rythme du Shabbat ? Eh bien, c'est justement là l'intention de la Torah, afin, encore une fois, d'empêcher les inégalités sociales de devenir trop graves. Voilà l'introduction, grosso modo, que je vais donner à ce problème. C'est... Je traduis la question. Tout à l'heure, lorsque j'ai présenté le problème, j'ai indiqué que c'est donc intentionnellement que la Torah veut nous faire comprendre que le projet de sainteté qui est le sujet central du livre de Vaïkra, du Lévitique, au niveau de la société, est donc relié au problème que pose l'économie, en particulier donc le problème de l'agriculture qui est à la base de la nourriture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'expérience de la sainteté à l'échelle individuelle, qui dans l'ordre du temps, de la durée, de la dimension de notre existence, c'est le Shabbat de la semaine où l'individu est en situation de sainteté, il y a aussi l'expérience de sainteté au niveau de la société. Tous les 7 ans, la société vit le Shabbat, en tant que société. Ce sont effectivement des expériences dont nous avons perdu le sens dans la galoute, puis nous n'avons jamais vécu en tant que société. Nous avons vécu en tant que communauté, mais pas en tant que société. Donc nous ne connaissions que le Shabbat individuel au niveau de la vie de communauté. Mais nous ne connaissions pas l'expérience du Shabbat d'une société au niveau de ces problèmes de la Shemitah. Donc c'est pour qu'on aurait tendance à ne voir là que des lois de régularisation économique. Mais encore une fois, ici, le problème économique avec ses nécessités de régularisation n'est que le véhicule du problème moral qui est lui-même le levier de l'accès au projet de vie. C'est-à-dire, hein, je vois un peu utopiquement l'expérience d'être, en tant que membre d'une société, d'un Israélien vivant l'année shabbatique de la nation. Et donc, vivant au niveau de sa dimension d'être, participant à une nation, l'expérience de l'individu dans son Shabbat de la semaine. Nous n'avons jamais expérimenté ça dans la vie de la galaxie. Mais tout ça, c'est le projet de la société messianique. Oui, la seule chose que la société israélienne a récupérée, et je crois qu'elle l'a donné en exemple au monde, parce que dans les mêmes sociétés non limitées, c'est ce qu'on appelle l'année shabbatique. Mais ça ne sert qu'aux universitaires comme vous savez. Avec parfois d'ailleurs des abus scandaleux. Si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'en général, ce sont ceux qui ne pratiquent pas Shabbat qui ont la notion de Shabbat.
Ce serait une illustration de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire de l'expérience d'une société qui vit son Shabbat. Et ici, ce n'est pas le problème de la Shemitah elle-même, mais c'est quelque chose qui peut nous éclairer. C'est-à-dire un Shabbat déjà à l'échelle de la dimension nationale. Il y a énormément de préalables pour que ce problème soit compris. Je crois qu'il y a une éducation préalable dans le sens culturel et élémentaire sur la signification, ne serait-ce qu'au niveau des principes les plus généraux, de la finalité des mitzvot de la Torah lorsqu'elle parle de la vie sociale. Parce qu'encore une fois, pendant les 2000 années de la galoute, on s'est déshabitué de ça, de l'évidence que la Torah est à légiférer à ce niveau-là, de fait social. Et on s'était finalement habitué à l'évidence, le cas échéant, que des mitzvot religieux de type vie religieuse individuelle. C'est donc toute une éducation à refaire. Et le fait que les autres sociétés ne suivent pas ce principe-là, et que par conséquent, la société israélienne serait handicapée si elle suivait ce principe-là, par exemple, elle a risqué d'être en déficit finalement, c'est démenti. Il y a deux jours, on a indiqué à la radio, à la télévision, je ne sais plus, qu'elle a été en bénéfice. Tous les miracles sont aussi bons. Il y a une éducation culturelle à refaire. Par exemple, dans les pays arabes, qui ont l'islam comme religion officielle, pratiquement tous dans l'état des choses actuellement, est-ce qu'il y a une exception ? Peut-être même pas l'Algérie, je crois que c'est l'islam qui est la religion officielle de l'Algérie. C'est pas encore un islam féministe, mais enfin, eh bien, par exemple, dans les pays de la péninsule arabique, eh bien, les aérodromes le vendredi sont fermés un point et le monde peut monter et descendre, c'est fermé. C'est-à-dire, les juifs sont arrivés encore à cette espèce de fierté de soi bleu et blanc à ce niveau. Mais il y a des préalables physiques, mais surtout le fait d'un témoignage apporté, d'une tentative de société qui peut vivre un niveau de socialisme de l'abondance grâce à ce refroidissement de l'accélération économique qui finalement devient monstrueux et fait des ouvriers de véritables forçats, on rappelait tout ce vocabulaire-là.
C'est
quoi ? Il faut inverser un peu la catégorie, comme on verra, j'ai tout tort de ne pas lire déjà les versets dans le but, c'est que c'est le Shabbat de la terre. La terre doit être en repos, la terre doit être en Shabbat. Il en résulte que, étant donné qu'il s'agit d'une société agricole, et dans tous les cas, tout ce que nous apprenons à propos de ce type de mise en œuvre, à propos de la société agricole du temps des Hébreux, doit être repensé à notre niveau, au niveau de la société industrielle, bien entendu, mais la formulation, le changement de régime, c'est très facile à faire pour ceux qui se sont attaqués à ce problème. Il y a en Israël et en Houkaret des économistes qui étudient ces choses-là et qui, pour le moment, c'est encore au stade un peu théorique, avant que des projets concrets ne soient proposés par le Beit Din à la Knesset à ce niveau-là, il y a des préalables culturels à régler. Et il en résulte que finalement, la vie économique, dans le sens de le problème central de la société, vous savez à quel point le problème central de la société c'est la vie économique, il suffit de vivre en Israël pour se rendre compte que l'économie c'est un mystère, on ne sait pas comment ça marche. Je crois que tous les économistes sont d'accord là-dessus, il faut un doctorat pour finalement arriver à cela, à dire qu'on ne sait pas comment ça marche. Et ça reste, est suspendu. C'est en contre-coup du Shabbat de la terre que finalement il y a le Shabbat de la société. Le Shabbat de la semaine étant le Shabbat de l'homme individu. Je veux dire, le problème ce serait pas seulement que Elal ne voyage pas le Shabbat, c'est que nous, l'autre, on permet le Shabbat. C'est à ce niveau-là que je vois le Shabbat de l'Oshin. Bien. Je reviens donc au texte lui-même. On va lire le premier verset et je reprends la question d'exégèse sur le premier verset. Regardez Rachel et Moshe, Berar Sinaï. Et Dieu parla à Moïse sur la montagne du Sinaï en disant, d'abord le béni Israël, parle aux enfants d'Israël, va m'appeler, mais tu leur diras, qui t'avoue où est la haret, lorsque vous viendrez au pays, Asherani Noten Lachem, que je vous donne, les Shafta Haaret Shavat Lachem. La terre pratiquera, non, c'est pas le mot, pratiquera Shabbat, non, vous comprenez l'idée, Shabbatisera, un Shabbat pour Hachem, et ça ne veut pas dire, on traduit se reposera, mais cessera d'être le facteur de l'activité de la société humaine. Shechanim Tizra Sadecha. 6 années, tu ensemenceras ton champ, mais Shechanim Tizmor Karmecha, et 6 années, tu tailleras ta vigne, Versafta et Tevoata, et tu rassembleras, tu engrangeras sa récolte. Ou Bachana Shuvi, mais la 7e année, Shabbat Shabbaton et Yélaré, il y aura un Shabbat absolu pour la terre, Shabbat Hashem, un Shabbat en l'honneur de Hashem, pour Hashem, Tadechalot Tizra, ton champ, tu ne l'ensemenceras pas. Le Karmechalot Tizmo, ta vie, tu ne la cultiveras pas, etc. Et je vais vous lire un verset qui que vous retrouvez tout de suite, qui va faire allusion d'ailleurs à ce que Rachel a signalé tout à l'heure en parlant du Shabbat de Réchi, du Shabbat pour l'individu. Il y a que Dieu a béni le jour du Shabbat et ensuite l'a sanctifié. Je trouverai cela. Et est-ce que c'est même dans ce petit drap? Voilà. Je vais le prendre au chapitre 25. Et verset 20. Donc, dans le premier chapitre de Béha, le verset 24, à la page. À la page 50. Voilà, récitez-vous. Et si vous dites, si vous donnez le coup, Manochal Bashanashi, que mangerons-nous la 7e année? On n'a pas le droit d'avoir une récolte la 7e année. Et l'on nous dira, voici que nous n'aurons pas ensemencé, et l'on a été fait boiter, nous n'aurons pas engrangé notre récolte. Réponse au verset 21, et si vous étiez Birkatilachem Bashanashi, je leur donnerai à la bénédiction de vous être donné pendant la 6e année. C'est-à-dire la 6e année, vous aurez une récolte de bénédiction, de telle sorte que vous puissiez utiliser la 7e année, exactement comme le 6e jour, il y avait l'Echem Mishneh, Bracha, puisque le 7e jour, il devait y avoir la paix. Et alors, suivant le même rythme de la mitzvah du Shabbat, ça veut dire que la pratique des lois de la Shemitah est pensable, possible. Et s'il y a abondance, alors il peut y avoir refroidissement de l'économie. Mais je crois que c'est important de dire cela. Ici, le souci de la Torah n'est pas la productivité, n'est pas la rentabilité économique. Le produit de la Torah est qu'il y ait une vie économique morale. C'est bien clair. Okay. Bien. Je reviens donc à notre première question. On a un peu entrevu ce que signifie ces lois, le Shabbat au niveau de la société et au niveau du fait économique. On a d'autre part compris que pour la Torah n'est pas utopique, que c'est même l'inverse. Suivant le souci de la Torah, c'est la seule manière pour que l'accélération du fait économique ne brise pas le niveau moral d'une société. Nous sommes à la veille de Shavuot. Et j'avais cité une fois, le premier verset du livre de Ruth nous éclaire de façon étonnante notre situation actuelle, ce qui se passe dans la société israélienne contemporaine. Lorsque le verset commence par dire, Vaïhi, Vimesh, Spot, Ashofti, et ce fut au temps des juges, Vaïhi, Rahabare, et il y eut une famille dans le pays. Or, le Midrash, repris par énormément de commentateurs, surtout Rashi, en particulier Rashi, se pose la question, quel rapport y a-t-il entre ces deux informations? C'était au temps des juges, il y eut une famille dans la terre, dans le pays, c'est ça. Si c'est purement narratif, eh bien, il n'y aurait pas de question. On a simplement voulu nous donner une information chronologique. Okay. Mais la manière dont le récit est formulé, dans le texte est formulé, montre que, suivant pour le texte, il y a un lien entre ces deux faits, que c'était le temps des juges et qu'il y a eu une famille. Famille, ça veut dire quoi? Des éléments d'économie, c'est évident. Pourquoi? Parce que le verset commence comme ça, Vaïhi, Biné, et ce fut le temps avec une expression qui, suivant l'analyse talmudique qu'on vous cite très souvent, lorsqu'un récit commence par la vie, et ce fut, ça annonce un malheur. Or, le malheur, c'est pas que c'était le temps des juifs, le malheur, c'était la famille. Or, elle était au temps des juifs. Vous avez compris le raisonnement? Bon. Ce qui mène le Midrash à lire de façon chatte l'expression d'Aïch Potashofti. C'était le temps où on jugeait les juifs. Ça veut dire, je vous cite le Pshat du Midrash d'abord. Et c'est là que le Camus a formulé cet apologue, c'est parce que l'évangile a repris par la suite. Puisque, comme vous savez, les chrétiens ont été des élèves de Tamilis, on demande des qualités philosophes, et ils sont permis. Et il dit ceci, lorsque un juge disait à un homme, enlève la paille que tu as dans ton œil, l'homme lui répondait, commence par enlever la poutre que tu as dans le tien. C'était ma paille, c'était ma poutre, il y avait ma femme aussi. Ça veut dire qu'il y avait un état tel de la moralité au niveau de la légalité, tel, qu'on mettait en question la comment dit en français, là, l'intégrité des juges. Et par conséquent, puisque la justice n'était pas dans la société, ça s'exprimait par le fait du dérèglement de l'économie. Inversement, le dérèglement de l'économie est relié à l'état de la justice dans le problème essentiel de toute société auquel s'attache la Torah, que la moralité doit primer la légalité. Lorsque la légalité prime la moralité, alors le juge s'entend dire enlève d'abord la poutre que l'on donne. Comment ça se fait ? Et c'est pourquoi le sens fondamental de ce midrash n'était pas tellement autant où jugeait les juges, mais autant où les juges jugeaient. Le pshat en hébreu, si il est en hébreu, va y du meshfot à sauchim. Autant où les juges jugeaient. Il y a en hébreu quelque chose de paradoxal dans l'expression. Est-ce que ce n'est pas le fait des juges de juger à la vérité à dire autant des juges ? Mais voilà que le verset dit, autant où les juges jugeaient. Ça veut dire ce qu'il faut apprendre, c'est qu'on ne demande pas aux juges de juger. Alors qu'est-ce qu'on lui demande ? On demande aux juges d'installer la moralité dans la légalité. Mais s'il juge dans le sens formel de sa fonction, il installe la légalité dans la moralité, alors là, résultat, l'économie se dérègle. Vous avez suivi cela ? C'est bien clair. Et justement, ça a l'air très paradoxal, vous voyez ? On ne demande pas aux juges de juger, c'est un manque d'humour. Parce que je pense que c'est clair. Un juge doit justifier. Du coup, est à sa doute, virtue, est à l'achat. C'est très clair. En hébreu, c'est très différent. Vous savez, le manque suprême du mot c'est un juge consiste à appliquer la loi. C'est ça que vous pensez que je dis. C'est un du mot, c'est un bien vu pour ça. Il n'y a qu'à faire des ordinateurs. Et puis on rentre, j'ai pas dans une fiche, qu'à un tel, la réponse, et voilà ce que dit le latin un tel. C'est pas du juge. Le juge doit réintégrer la moralité dans une situation déréglée, dans une situation sociale de moralité déréglée. S'il applique la légalité, alors la conséquence est catastrophique. L'économie se dérègle. Voilà. J'espère que vous avez fait comprendre qu'il n'y a pas là ici une association d'idées de type mystique ou primitive, puisque nous vivons ces choses-là. Je n'ai pas le temps maintenant, mais par vous-même, vous pouvez le comprendre. Si vous suivez la vie politique israélienne, vous vous apercevrez à quel point la tentation de la légalité à la place de la moralité sévit dans ce pays, enfin dans cette société, elle, c'est mon père. Hein. La principale autorité politique du pays, c'est le Yoretz HaMishpati. Ce qui est interdit par la Torah, la séparation des pouvoirs. L'autorité politique, c'est l'autorité politique, l'autorité juridique, c'est l'autorité juridique, l'autorité sacerdotale, elle est pour elle-même, et l'autorité prophétique, elle est pour elle-même. Alors ici, nous sommes arrivés à un point de confusion des pouvoirs, où finalement, nous avons un super empereur qui est le Yoretz HaMishpati, contre le sens français. Le conseiller juridique, c'est lui qui décide comment la vie politique va avancer. Vous avez remarqué ça ? Ce qui est extrêmement paradoxal, c'est l'antidémocratie par excellence. C'est le pouvoir des juges. Est-ce que c'est clair ? Et donc on revient à la formule, voyez, du maître de Sophie, on se trouve dans une situation pré-le roi David. Vous avez compris ça ? Je pense que c'est clair. Et on est à l'époque de la dictature des juges. Et si cette dictature, c'était pour imposer la moralité, bravo. Et ça ne veut pas dire que les juges ne sont pas des hommes de moralité, c'est des bons juges. Il y en a même qui mangent la tête. Mais c'est qu'ils procèdent d'une éducation juridico-politique européenne qui en a fait des légalistes. Et puisque la mentalité de ce problème dans la culture européenne, et dans la culture occidentale en général, c'est que c'est la légalité qui prime la moralité, puisque c'est la légalité qui est la moralité elle-même. Le souci de respecter la légalité de la loi est une des vertus de la moralité. C'est exact.